proche de Jean-Claude Gust, de Jean-Claude Gust que de Benoît Saint-Denis, j'ai eu l'impression d'entendre Thierry Lhermitte dire « Pense à ta licence, Eric, ils vont te retirer ta licence. » Il doit être ceinture blanche, Riri, c'est oui. sa couleur préférée aussi. Riri, on lui a donc donné un coup de poing dans l'eau. Alors, la femme n'a rien. Par contre, Eric s'est luxé l'épaule, il a trois doigts cassés. Il est fragile, notre Rico. C'est une petite porcelaine de Limoges xénophobe.
Bon, dites-moi, on doit en arrêter là.
À tout à l'heure.
Ben oui, à tout à l'heure, oui.
8h40.
Merci d'être resté avec nous, maître Nabil Boudi. Bonne journée et bon travail.
Merci. Merci.
RTL, il est 8h.
7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, les tapis rouges, mais pas mal de sujets qui fâchent.
Oui, le président chinois est arrivé hier pour deux jours de visite d'État. La guerre en Ukraine, la concurrence des produits chinois, le programme est chargé. On est avec Émilie Beaujard dans un instant. Dans ce journal également, un week-end sanglant à Sevran. Trois hommes tués par balle en moins de 48 heures. Le plan de l'État français pour multiplier par 4 les ventes de voitures électriques en France. L'uniforme à l'école qui s'impose. Les enfants s'habituent, en tout cas, vous l'entendrez. Et puis la fin annoncée d'une émission culte. Les chiffres et les lettres, c'est terminé à la rentrée.
Oh là là.
Un demi-million de spectateurs en trois jours, c'est le phénomène dans nos salles de cinéma en ce moment. Un petit truc en plus, une comédie qui traite du handicap. Son réalisateur et comédien, l'humoriste Artus, sera avec nous à 8h20 et nous expliquera ce succès.
Juste avant, le surf de l'info et Cyprien Sini, vous surfez ce matin avec ce premier grand débat des Européens.
Jordan Bardella au milieu de toutes les attentions. C'était animé, on s'est pas ennuyé, vous allez l'entendre.
RTL Matin.
C'est sa première visite en Europe depuis 5 ans. Le président chinois Xi Jinping est donc arrivé hier en France, accueilli à Orly par Gabriel Attal. Le tapis rouge, il y aura une cérémonie en grande pompe cet après-midi aux Invalides. Le dîner d'État, évidemment, ce soir à l'Élysée. La France y met la forme. Bonjour Émilie Beaujard.
Bonjour.
Mais sur le fond, les sujets de crispation sont nombreux. Et ça commence d'ailleurs dès ce matin à 11h.
Oui, et notamment sur le déficit commercial avec la Chine. Ces discussions auront lieu en présence d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui, on le sait, n'a pas de mot tendre quand il s'agit de parler business avec la Chine. Bruxelles a lancé des enquêtes sur les voitures électriques, les panneaux photovoltaïques, les produits médicaux chinois, trop subventionnés par Pékin, trop peu chers, et qui ne respecteraient pas nos normes. Des sanctions douanières pourraient être prises avant l'été. Mais il ne faut pas non plus se fermer le marché chinois. La partie d'équilibriste sera difficile, mais la survie de certaines entreprises françaises, notamment dans le photovoltaïque, est en jeu. Sur l'Ukraine maintenant, le président chinois reste un des derniers chefs d'État puissants à encore parler à Poutine directement. Il devrait d'ailleurs bientôt le recevoir à Pékin. Pour Emmanuel Macron, c'est le moment de demander à Xi Jinping d'interférer en faveur de la paix, de demander à Poutine de faire évoluer ses positions sur l'Ukraine.
Et alors Émilie, sur un plan plus humain, est-ce qu'on sait comment ils s'entendent, Emmanuel Macron et Xi Jinping? Ils se connaissent en tout cas.
Eh bien, Xi Jinping est déjà venu rencontrer Emmanuel Macron en 2019 et les deux hommes se sont croisés à de nombreux sommets internationaux ces dernières années. Autre signe que les deux hommes se respectent, le président chinois a choisi la France comme première étape de son voyage avant de se rendre en Serbie et en Hongrie. Avec cette nouvelle rencontre plus intime, Emmanuel Macron espère créer une relation plus personnelle avec l'homme qui dirige la deuxième puissance économique mondiale. Ce sera d'ailleurs tout l'enjeu de l'étape de demain dans les Hautes-Pyrénées. Le président de la République veut emmener le leader chinois à la Mongie sur les traces de sa grand-mère décédée il y a une dizaine d'années.
Merci Émilie Beaujard. Une visite en tout cas qui ne fait pas l'unanimité. Le pays des droits de l'homme accueille un dictateur. Voilà ce que sont venus dire 2000 personnes rassemblées hier à Paris. Il s'agissait pour l'essentiel de Tibétains vivant en France. Avant cela, la communauté ouïghour avait également manifesté dans la capitale pour dénoncer les répressions subies là-bas et ce qu'elle qualifie d'ailleurs de génocide. À Gaza, l'espoir d'une trêve s'éloigne. Le Hamas est parti du Caire hier sans accord. Le mouvement responsable des massacres du 7 octobre veut un cessez-le-feu définitif pour accepter la libération d'otages. Israël refuse et une offensive sur Rafah semble de plus en plus inéluctable. Communiqué de presse, en tout cas ce matin, de l'armée israélienne qui encourage, je cite, les habitants de Rafah à se rendre dans les zones humanitaires, notamment vers Ran Younes. Par ailleurs, on va suivre aujourd'hui la situation dans les lycées français. L'Union syndicale lycéenne appelle au blocage pour deux jours pour appeler un cessez-le-feu et personne n'était en mesure pour le moment d'évaluer l'ampleur du mouvement à venir.
8h04, des renforts policiers à Sevran après un week-end sanglant.
3 morts en moins de 48 heures dans cette ville de Seine-Saint-Denis au nord-est de Paris. 3 hommes tués par balle. Les autorités expliquent que la piste privilégiée est celle de règlement de compte liées au trafic de drogue. Et hier soir, la fusillade a eu lieu en plein jour, Thomas Proutot.
Oui, les deux hommes de 31 et 35 ans ont été abattus en pleine rue vers 18h dans une allée d'un quartier de Sevran, tout près d'un parc de jeux pour enfants. Les tireurs n'ont laissé aucune chance aux deux victimes, archi connues de la justice pour trafic de stupes, d'après une source policière. Mais surtout, ces nouveaux meurtres ont eu lieu à 2 km à peine d'une première fusillade spectaculaire vendredi soir sur un parking d'un autre quartier de la ville. Un homme est descendu d'une Peugeot 5008, fusil mitrailleur en main, avant de tirer plusieurs rafales sur un groupe. Un mort et 6 blessés, dont 3 graves. Ce secteur de la Seine-Saint-Denis n'avait pas connu un tel nombre de victimes liées au trafic de drogue depuis des années, même si les règlements de compte entre trafiquants y sont fréquents. Une possible conséquence, d'après le préfet de police hier soir, des opérations de harcèlement des points de deal et de démantèlement de réseaux engagés depuis plusieurs semaines.
Merci Thomas Proutot. Et puis RTL vous révélait l'information dès le journal de 7h30. Un jeune homme de 17 ans a été abattu hier soir à Marseille dans un nouveau règlement de compte. Ça s'est passé dans le quartier de la Rose, dans le 13e arrondissement de la ville. À retenir en bref, elle vogue, la flamme olympique, le Belém, le fameux 3 mars, arrive à Marseille dans 2 jours, mercredi. Ce sera d'ailleurs une journée spéciale sur RTL, édition spéciale même à partir de 18h. C'est Florent Manaudou qui va récupérer la flamme sur le bateau. Elle va circuler ensuite dans toute la ville avec des porteurs successifs. On verra par exemple Jean-Pierre Papin, Tony Parker ou encore le rappeur marseillais Soprano. Et puis la femme de Kenji Girac s'exprime pour la première fois ce matin dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Elle affirme que le chanteur ne lui a jamais fait de chantage au suicide, contrairement à ce qu'a dit le procureur de Mont-de-Marsan. Elle ne parle pas dans le détail ni de la soirée, ni des problèmes d'alcool ou de stupéfiants, mais elle dit d'ailleurs avoir été étonnée qu'autant de détails sur leur vie privée soient dévoilés.
On évoquait tout à l'heure la concurrence des voitures électriques chinoises. La France dégaine elle aussi son plan d'action.
Oui, un nouveau contrat stratégique va être signé aujourd'hui entre l'État et la filière. Pour avoir les idées claires et une politique stable sur les 3 prochaines années, l'État s'engage par exemple à ce que les bonus écologiques soient maintenus pour rassurer les entreprises et les conforter dans leur stratégie offensive, parce que les objectifs sont ambitieux, Christophe Bourreau.
L'idée de ce contrat, multiplier par 4 le nombre de voitures électriques vendues en France d'ici à 2027, pour atteindre les 800 000 et par 6 les ventes d'utilitaires. Pour cela, l'État garantit que les aides comme le leasing social, la prime à la casse et le bonus seront maintenus, sans toutefois chiffrer le montant d'un tel coup de pouce, estimé à 1,5 milliard d'euros cette année. Autre objectif, développer le nombre de bornes de recharge et ainsi passer d'un peu plus de 100 000 à 400 000 à l'horizon 2030. De son côté, la filière automobile s'engage, elle, à davantage produire en France. L'objectif est d'atteindre les 2 millions de modèles électriques par an. Enfin, même si la France s'électrifie, des millions de voitures, essence ou diesel, continueront à circuler. Pour cela, les professionnels veulent pousser le rétrofit qui consiste à adapter sa vieille auto thermique en électrique, même si aujourd'hui une telle opération coûte encore très cher. Comptez par exemple près de 16 000 euros pour transformer votre Renault 5 en mode branché.
Merci beaucoup Christophe Bourreau.
RTL 8h08, on fait un premier bilan ce matin sur RTL de l'uniforme ou de la tenue unique à l'école.
Oui, depuis le 26 mars, 3 écoles élémentaires de Puteaux, c'est juste à côté de Paris, expérimentent effectivement cet uniforme. Est-ce que cela fonctionne? Vous êtes allé interroger les enfants qui semblent avoir pris le pli, Nerissa Emani.
Oui, sous les manteaux, difficile d'imaginer que ces élèves portent tous le même vêtement. Et pourtant...
C'est un pull, tout en haut à gauche, marqué École des bergères.
Un pull bleu et un polo blanc. Ellie, 10 ans, les a adoptés.
C'est bien. On est tous pareils.
Comment tu t'appelles?
Yaya.
Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'étais pour
l'uniforme ou
quoi? Bah non, j'étais pas pour, mais maintenant, j'aime bien.
Tu le trouves joli?
Pas trop joli. C'est pas grave. Maintenant, et bah, personne peut se moquer puisqu'on a tous le même habit.
Gommer les différences, c'est ce qui plaît à ses parents, quand bien même les vêtements sont fabriqués au Bangladesh.
Je lave tous les jours et franchement, il n'y a pas de problème. Hein.
Ah oui,
ça tient bien. Ouais.
Le matin, et c'est très pratique. On n'a pas à se casser la tête. Et on gagne, je pense, au moins 10 minutes.
Un enthousiasme loin d'être partagé partout. Dans l'école voisine, ce papa refuse que son fils de 6 ans porte l'uniforme.
Il y en a déjà un certain nombre qui ne le portent pas parce qu'ils ne l'ont pas, parce qu'il n'y a pas eu les bonnes tailles qui ont été fournies. Si un enfant n'a pas l'uniforme, ça ne change rien. Tout ça n'est qu'un gadget politique avec l'argent public.
Le père de famille regrette qu'aucun protocole ne soit mise en place à l'école pour évaluer le dispositif.
Merci beaucoup Nerissa Emani. 3 mots de sport en bref. Le Stade Toulousain est en finale de la Champions Cup. C'est du rugby. Toulouse a battu les Anglais d'Harlequin hier soir et a affrontera le Leinster le 25 mai prochain à Londres. Lille-Lyon ce soir en Ligue 1 pour la 32e journée du championnat. Et c'est un match important pour les places européennes. Lille est 4e et Lyon est 8e actuellement. Et puis en F1, c'est assez rare pour le signaler, mais Max Verstappen n'a pas gagné hier le Grand Prix de Miami. Il a été devancé par Lando Norris qui lui roule sur McLaren.
Allez, voilà un générique.
Exactement. Amandine, alors c'est dur évidemment pour les adeptes, ils sont encore nombreux. Et puis il y a ceux à qui ça rappelle évidemment les après-midi avec les grands-parents. Reportage de Patrick Tégéraud.
Eh bien, quand on parle des chiffres et des lettres, hein, Andrew, les mots sont brefs.
Aucune idée. Trop jeune.
Là, j'avais vous.
Visiblement, pas de culture. 30 ans.
Mathilde et Marie sont cousines. Cette émission, c'est un souvenir d'enfance.
Clairement, je ne me rappelle pas. En fond, chez Mamie Rose.
Ça vous intéressait ?
Les chiffres, ouais, plus les calculs. Oui. Ça disparaît, c'est vrai ?
Oui, ça y est, là, ça va être retiré de l'antenne à partir de la rentrée prochaine.
Ça faisait trop réfléchir.
Je savais même pas que ça existait encore.
C'est le cas aussi pour Julien, 42 ans, et Laurent, 66 ans.
Depuis tout petit, moi, j'ai ma mère qui a regardé aussi les chiffres et les lettres. Puis moi, de temps en temps, j'ai regardé aussi. Ouais.
Ça va, bon, c'est pas trop difficile ?
Ouais, j'ai pas leur niveau.
Et ma grand-mère qui regardait ça le soir, systématiquement. Ça ne m'intéressait pas, non. C'est trop connoté.
C'est-à-dire ?
Trop connoté, grand-mère.
Magali est la cinquantaine, elle y a joué enfant et même à l'école.
Eh oui, c'est plus dans l'air du temps, c'est pas de la télé-réalité, c'est dommage. Ça reste de bons souvenirs et je pense qu'il y a toujours un public.
Pour continuer à se triturer les méninges, il reste les clubs des chiffres et des lettres, qui sont près d'un millier en France et en Belgique, ainsi que les applications ou les jeux en ligne.
Voilà, merci beaucoup Patrick Tégéraud, la fin donc des chiffres et des lettres. Et à propos de lettres et de langue française d'ailleurs, on lance aujourd'hui sur RTL un concours auprès des collégiens et des lycéens. Écrivez-nous votre plus belle lettre sur la liberté.
Oui, 10 lignes sur ce que présente la liberté pour vous, donc collégiens et lycéens, à l'occasion des 80 ans bien sûr du débarquement. Ce sera le 6 juin. Il suffit donc d'envoyer cette lettre, hein, c'est ça Olivier, oui, à l'adresse suivante.
liberté@rtl.fr, liberté sans E.
Voilà, avec une partie de la rédaction, tout un jury hyper sérieux, on va étudier tout ça.
Vous en êtes ?
Et, oui, et le gagnant lira son ode à la liberté sur l'antenne le 6 juin prochain, sachant que la RTL Matin sera en Normandie le 6 juin prochain, je vous l'annonce au passage.
Voilà, donc on rappelle l'adresse, liberté@rtl.fr, liberté sans E, vous nous écrivez, donc c'est 10 lignes pour votre lettre sur la liberté.
Ouais. Ça peut être une classe aussi qui participe, pourquoi pas ? Je lance un appel aux enseignants qui nous écouteraient.
Si tu me permets, liberté, c'est sans accent et non pas sans E.
Ah oui.
Oui, en français, non, monsieur, je peux vous inquiéter.
Excusez-moi.
C'est une chose qui arrive de temps en temps.
Mal pour moi.
Donc, Olivier Bois, vous proposez le journal de 8 heures. En liberté et accent aigu. Marina Giraudot, pour changer, vous nous proposez encore de la pluie pour ce lundi.
Hein. Oh, mais oui, on a une perturbation pluvieuse là qui est sur l'est du pays, essentiellement. Donc, du Grand Est en descendant vers la Méditerranée jusqu'à l'est des Pyrénées. C'est là où on a le plus de pluie, mais à l'arrière, vous avez un régime d'averse. Et en plus, il y a une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne et qui donne un temps pluvieux, voire orageux. Bref, à un moment ou l'autre de la journée, vous aurez des averses. Il peut y avoir des moments d'accalmie, mais ça ne dure jamais bien longtemps. De la neige à 2000 mètres d'altitude pour les Pyrénées et les Alpes. Je vous le disais, parfois des orages. Il y a juste la Corse qui va échapper à ce mauvais temps. La Corse qui aura un temps calme, alors voilé, mais en tous les cas sec.
On vous retrouve à 8h30 pour la météo à 7 jours.
Ça marche, à tout
à l'heure. Avec grand plaisir.
RTL vous explique.
Comme chaque jour, juste après le journal de 8h, on s'arrête sur un point de l'actualité. Ce matin, RTL vous explique comment ont été choisis les 11 000 porteurs de la flamme olympique. Et oui, cette flamme, elle arrive à Marseille mercredi, le 8 mai. Bonjour Thomas Després.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Alors, tout le monde ne pouvait pas prétendre à une telle responsabilité, les porteurs de flamme.
En effet, le cahier des charges est très minutieux. D'abord, les heureux élus ne doivent pas être des politiques en exercice, ni des responsables religieux. C'est une règle très stricte édictée par le Comité international olympique. Ça élimine d'office un bon nombre de candidats. Ensuite, les porteurs de flamme ont tous dû montrer patte blanche. Pas question d'avoir un scandale en plein JO, hein, ou de faire rentrer un potentiel terroriste dans la bulle de sécurité. Ouais. Tous les profils ont été passés à la loupe du ministère de l'Intérieur. On parle d'une enquête de sécurité. Savoir si le porteur potentiel a un casier judiciaire, s'il est fiché S, ou encore s'il est inscrit au fichier des délinquants sexuels. Et s'il y a le moindre doute, le profil est automatiquement écarté.
Et c'est déjà arrivé ça ?
Oui, pour plusieurs centaines de personnes. Le chiffre précis reste secret. Mais puis, il y a ceux qui ont été écartés pour éviter les polémiques. Le comité d'organisation avait, par exemple, envisagé de confier un relais à un jeune homme baptiste devenu star des réseaux sociaux après une vidéo pyrotechnique devenue virale. Sauf que depuis, plusieurs femmes l'ont accusé de harcèlement sexuel. Résultat, il ne portera pas la flamme.
Bon, on imagine, Thomas, qu'il y a un certain nombre de valeurs à mettre en avant aussi.
Oui, selon les termes officiels, ils doivent représenter la diversité de la société. Autant d'hommes que de femmes, des personnalités comme des inconnus, valides ou en situation de handicap, jeunes ou vieux, et puis qu'ils incarnent au moins trois caractéristiques mises en avant par le comité d'organisation.
Lesquelles ?
Eh bien, le sport, d'abord, bien sûr, les territoires, ou bien le sens du collectif. Au total, ils parcourront 450 villes jusqu'à l'allumage de la vasque dans le jardin des Tuileries, à Paris, le 26 juillet prochain, jour de la cérémonie d'ouverture.
Merci beaucoup, Thomas Després. Il y a des porteurs de flammes hein, parmi gens d'RTL. Isabelle Langer, notamment, oui, que vous retrouvez tous les dimanches soirs.
Et Ophélie Meunier aussi.
Ophélie Meunier aussi. Bah, vous avez candidaté, il fallait être candidat quand même. Oui.
Spontanément, on aurait dû nous appeler.
RTL, par ailleurs, sera mobilisé pour l'arrivée de cette flamme à Marseille. Ce sera donc mercredi dès 18h.
Et édition spéciale.
Édition spéciale.
RTL Matin, le surf de l'info.
Et à 8h15, c'est Payassini. Bah, vous surfez ce matin sur le grand débat des Européennes organisé hier par RTL avec les 7 principaux candidats et un Jordan Bardella au centre des attentions.
Ah oui, c'était un peu sa fête à Jordan Bardella. Dès les premières minutes, Valérie Ayé ouvre le bal.
Autour de la table, monsieur Bardella, on sait évidemment qu'il y a... Oui, ça commence parce que vous avez le soutien à la Russie qui est honteux aujourd'hui.
Et oui, la Russie, angle d'attaque également pour l'écolo Marie Toussaint.
Et vous prétendez défendre la France, monsieur Bardella, mais la réalité, c'est que vous êtes un agent de l'étranger.
Sans oublier Raphaël Glucksmann, qui lui aussi avait préparé sa petite punchline.
Lisez les textes que vous votez, arrêtez de passer votre temps sur TikTok.
Bon, après, il n'hésite pas à en remettre une pièce dans la machine, Jordan Bardella. On dirait que ça lui plaît, en fait, d'être au centre. Hein.
La question, elle est très claire, et je vous la pose directement, madame Ayé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le premier pays européen importateur de gaz russe?
Vous me posez la question, monsieur Bardella. Ouais. Non, mais c'est l'hôpital qui se fout.
C'est la France.
C'est reparti, pas vraiment ébranlé par les attaques. Et pourtant, elles ont été nombreuses avec en chef de file Manon Aubry.
Monsieur Bardella, permettez, on ne vous a pas beaucoup vu au Parlement européen ces 5 dernières années. Vous avez déposé en l'espace de 5 ans 21 amendements, quand j'en ai déposé 3500 amendements. Pardon, mais vous n'êtes plus le parti à la flamme nationale, mais bien le parti à la flemme nationale. Vous êtes un assisté, un menteur, un profiteur du système et vous êtes payé avec l'argent public et il faut que les Français le savent.
C'est pas fini.
J'aimerais me tourner vers vous, monsieur Bardella, parce que ces propositions, vous êtes le larbin des grands patrons.
Allez, une petite dernière pour la route. Allez.
Monsieur Bardella, vous avez sur votre liste des gens qui ont du sang sur les mains et à votre place, j'aurais honte.
Et évidemment, Jordan Bardella, implacable, avait lui aussi prévu sa petite attaque sur Manon Aubry. Écoutez bien.
Et avec les Bardella
il l'appelle Madame Hamas. Voilà. Sinon,
j'ai failli le rater, moi aussi.
On peut le remettre peut-être.
Remettez-le, s'il vous plaît.
Il y a une réactivité de notre réalisateur.
Vas-y.
Et avec les
Bardella, s'il vous plaît.
Pas du tout, Madame Hamas. Aubry, pardon.
Il fait genre, j'ai pas fait exprès, c'est génial. Voilà. Sinon, on a aussi une sorte de guerre fratricide improbable entre Marie Toussaint et Raphaël Glucksmann. C'était très bizarre.
J'ai du temps de retard. J'aimerais m'exprimer sur la question.
Raphaël, tu peux
Nous allons porter.
Honnêtement. On se connaît, tu ne peux pas faire ça.
Je ne peux pas faire ça. Nous n'avons pas porté le soutien.
Raphaël, tu peux pas. Et il y a Marion Maréchal, on entend pas bien, qui leur dit. Ah, vous avez qu'à y prendre un café pendant qu'on y est. Oui. En tout cas, coup de chapeau au chef du service politique de RTL, Olivier Bost, qui a géré ces 7 candidats agités d'une main de maître.
On va passer maintenant au temps de la conclusion.
On n'a pas tous 30 secondes, super.
Eh non, parce que on va pas y arriver, parce que vous parlez tous beaucoup trop et que vous avez été globalement tous indisciplinés.
Et toc, zéro pour tout le monde. L'élection, c'est dans un mois.
Et les temps ont été tenus, temps de parole quasi parfait pour chacun des 7 candidats, effectivement. Bravo à Olivier Bost et à toute l'équipe qui l'entourait. Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve dès 18h. RTL, bonsoir.
Absolument, on reviendra notamment sur la visite de Xi Jinping en France. C'est un peu l'événement du jour.
500 000 entrées en 3 jours, c'est la comédie phénomène du moment. Le meilleur démarrage pour un film en 2024. Un petit truc en plus, cartonne dans nos salles. Son réalisateur et acteur principal, Artus, est avec nous dans un tout petit instant.
RTL Matin.
T'as des nouvelles du nouveau ?
Sylvain ?
Ouais.
J'ai eu ses parents, là, il arrive.
7h-9h.
Je vous présente Sylvain, les copains.
Yves Calvi, Amandine Bego.
Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur ?
Fils de pute !
Julien Courbet règle vos problèmes en direct sur RTL.
Alors, il y a tous les fans de l'émission qui sont là et qui ont envie de savoir qui sera là ce matin à partir de 9h. Eh bien, je leur annonce qu'il y aura Maître de Comont, Hervé Pouchol, Bernard Sabat, Mickaël pour l'immobilier. Je préfère ne pas vous présenter Sylvie parce que je sais que vous êtes susceptible.
Oui.
Sylvie Novakovic. Et ils l'ont pas dit pour elle.
Super.
À tout à l'heure, 9h.
Et maintenant, parlons biodiversité avec la Fédération Nationale des Chasseurs.
Bonjour Régis Hargues, vous dirigez la Fédération des Chasseurs des Landes, qui comme d'autres fédérations des chasseurs en région, participe à des opérations de bagage des oiseaux. Alors, de quoi s'agit-il concrètement ?
Le bagage, c'est un outil scientifique qui est coordonné au niveau européen. Il s'agit d'apposer une petite bague d'aluminium sur la patte des oiseaux, avec plusieurs renseignements, qui vont nous permettre de comprendre la biologie de ces populations. Par exemple, avec l'Institut Le GIF, nous avons bagué sur la dernière décennie plus de 25 000 pigeons.
Et pourquoi les chasseurs organisent et participent à ces opérations de bagage ?
Dans un contexte de questionnement sur notre biodiversité, il apparaît indispensable aujourd'hui de connaître l'état de conservation de toutes les espèces, notamment d'oiseaux, pour comprendre les stratégies de migration de nos oiseaux, qui peuvent être impactées notamment par les changements climatiques, mais également pour maintenir une chasse durable et ainsi garantir la pérennité de nos espèces.
Merci Régis Hargues, à bientôt.
Merci et rendez-vous lundi prochain pour parler biodiversité avec la Fédération Nationale des Chasseurs.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Ah le patron, ils les ont à 1,98€.
Les avocats ?
Ah oui, en ce moment chez Lidl, ils font la barquette de deux avocats à 1,98€.
Quoi ? 99 centimes la pièce ? Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
C'est l'avocat Sion de Lidl, non ?
Avec des avocats à ce prix-là, il n'y a plus de justice.
Et on est juste mal.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, origine Pérou, Afrique du Sud ou Kenya selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.com. RTL Matin jusqu'à 9h.
Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam.
Bonjour Artus.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans notre matinale sur RTL.
Avec
votre film Un petit truc en plus vient donc de sortir dans nos salles de cinéma. Les chiffres sont exceptionnels. Vous êtes d'ores et déjà le film qui a fait le plus d'entrées en France en 2024. 280 000 le premier jour, 500 000 au bout de 3 jours. Le week-end a été bon. Vous en êtes au million, je crois.
On n'est pas au million, on n'est pas loin. On est à 935 000. On devrait être au million, j'espère, ce soir ou demain. Mais est-ce que c'est, oui, c'est complètement fou. On est sur.
Bah oui.
Sur les chiffres du dîner de con et d'Amélie Poulain, donc c'est improbable. Voilà, je ne sais pas quoi dire.
Rien, faut en profiter tout simplement. Alors je résume, hein. Vous êtes un braqueur en cavale qui se cache avec son père dans une colonie de vacances pour personnes en situation de handicap. Ça vous est venu comment, cette énormité ?
En fait, l'idée du braquage, c'est une façon d'intégrer mon personnage de Sylvain, qui est un personnage que je fais sur scène depuis longtemps. Parce qu'à la base, dans la version originale du film, il n'y avait pas Sylvain. C'est comme Sylvain est né en parallèle, vraiment sur le spectacle. Je me suis dit après, c'est quand même dommage de pas l'intégrer dans le film. Donc, il a fallu trouver cette histoire de braquage, mais qui est un point de départ. En fait, le film, c'est surtout
un prétexte.
C'est surtout la vie dans cette colo avec ces adultes qui ont un petit truc en plus.
Très sincèrement, vous ridiculisez The Fall Guy, l'énorme production américaine sortie le même jour que vous. Vous étiez préparé à un pareil succès, ça vous surprend ?
Évidemment, on peut pas être préparé à ça. Moi, je me souviens, la veille, je mangeais avec mes producteurs et on se dit, vous imaginez si demain on fait 80 000, ça serait fou, non, pour un premier jour. Et on se réveille le lendemain et on nous dit, on a fait 280 000. Ah oui, donc, non, on peut pas se préparer à ça.
En tout cas, on comprend que les Français ont plus que jamais envie de rire. Les comédies cartonnent, l'humour fait sale comble au cinéma et dans les salles de spectacle. En fait, le public vous dit qu'il a besoin de rire et que vous êtes en quelque sorte un ami, non?
Peut-être, oui. En tout cas, moi, je le ressens par rapport à ce qui se passe aussi en salle pour le spectacle. J'ai l'impression que les gens... En tout cas, je pense que quand on leur parle d'un truc qui fait pas écho avec l'actualité, qu'on les emmène un peu ailleurs, je pense qu'ils ont envie, en tout cas, de se dire pendant une heure et demie, on va pas me parler de tout ce qui se passe dans le monde qui est là, qui existe, mais qui, voilà, je pense que ça fait du bien aussi des fois de déconnecter un petit moment et de
respirer.
Penser à autre chose. Ouais, une petite respiration. Exactement.
Alors la surprise de votre scénario, c'est que le handicap n'est pas aussi tabou qu'on pourrait l'imaginer. Vous vous êtes posé la question en préparant le film, évidemment.
Oui et non, parce que maintenant c'est un sujet que je connais, que je traite depuis longtemps. J'ai eu beaucoup de retours, ça fait longtemps que je fais des sketchs là-dessus. Je sais que les gens touchés par le handicap, que ce soit dans le handisport ou tout ça, me soutiennent beaucoup. Donc en fait, j'y suis allé un peu accompagné de tout ça, accompagné de tous ces retours, en mode, voilà, je sais maintenant que c'est la bonne démarche. Voilà, après, il y a toujours des gens qui râlent, hein, c'est souvent des valides, d'ailleurs, qui sont pas touchés, qui se sentent porte-parole d'une cause qui les touche pas. Mais en tout cas, voilà, je suis ravi. Puis maintenant, là, quand je vois les familles, quand je vois l'impact que ça fait sur mes comédiens, un petit truc en plus qui gagne des abonnés sur les réseaux.
Et justement, alors, vos comédiens, 11 actrices et acteurs en situation de handicap, comment vivent-ils ce succès ? Expliquez-nous.
Je reçois des messages tous les jours, ils sont comme des fous. Il y a Sofiane qui va à la sortie des cinémas pour faire des photos avec les gens, parce que ils vivent un truc, ils prennent des abonnés sur les réseaux. Et ils m'ont dit, pour le coup, parce que c'est quand même un peu les réseaux des fois, voilà, c'est compliqué. Ils ont que des retours positifs. Je pense que même les gros cons qu'il y a sur les réseaux, parce qu'il y en a, même eux, ils sont, ça y est, ils se sont dit, viens, on est un peu humain et on s'envoie pas de la haine au visage.
Comment les avez-vous choisis? Comment vous avez fait votre casting? C'est particulier?
Ouais, je cherchais des couleurs, des personnalités. C'est pour ça que c'est vraiment eux dans le film. Arnaud, qui est fan de Dalida, il est vraiment fan de Dalida. Voilà, je cherchais à faire une équipe comme ça, un peu la Dream Team, avec des personnalités. C'est pas des acteurs. Je cherchais vraiment, voilà, des couleurs et des personnalités, mais pas des acteurs. Donc j'ai fait un post Instagram et j'ai rencontré différents profils.
Réaliser, mettre en scène, est-ce que c'est aussi satisfaisant que de jouer la comédie ou d'être sur scène,
ouais,
que vous faites depuis des années?
Oui, c'est... Ouais, ça va avec. Mais là, c'est vrai que sur ce projet-là, je me sentais pas de le donner à quelqu'un. Je voulais que ça soit mon bébé. Mais non, j'ai adoré réaliser. Il y a même des fois où j'oubliais parce que j'ai une doublure, donc je préparais les plans et puis on faisait les répètes et puis je faisais ben moteur et on me disait ben non mais t'es non, dans la séquence. Ah oui, ah merde, oui c'est vrai. Ben j'y vais du coup.
Ah oui, vous avez aimé ça. Nouveau métier que vous avez découvert.
Ouais, ce côté chef d'orchestre, ce côté voilà, moi j'aime bien prendre les choses en main et voilà, là voilà, on nous fait confiance. Il y a toute une équipe qui est là. Il y a vraiment un truc de chef d'orchestre qui est très agréable.
Donc si je comprends bien, vous allez continuer les deux. Un premier film qui cartonne, ça ouvre forcément des perspectives. Votre téléphone sonne plus que d'habitude depuis mercredi.
Ouais, j'avoue qu'il a pas mal sonné. J'ai eu des messages géniaux. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'ont envoyé des très beaux messages, dont des grands monsieur du cinéma, et ça m'a fait plaisir. En fait, j'ai toujours eu du mal à me sentir humoriste, à me sentir acteur, à me sentir... Voilà, on est toujours, on met un petit pied, et là, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, en gros, bienvenue dans la famille, donc ça fait plaisir. On se dit, ouais, peut-être que je suis acteur, peut-être que je suis réalisateur.
Donc, vous allez avoir plein d'autres projets à venir, parce que le succès facilite les choses.
Ah ben oui, ça va être plus facile de monter le deuxième film financièrement que le premier, on va pas se mentir.
Alors moi, je vous ai découvert dans le bureau des légendes. Si on m'avait dit que vous alliez passer des services secrets à un petit truc en plus, j'aurais été surpris. Parce que pour moi, à l'origine, même si je connais votre carrière, voilà, vous étiez ce personnage tout à fait sérieux dans une série dramatique.
Ouais, alors qu'en fait, c'était la surprise, c'était plus d'aller vers le bureau des légendes, parce que moi, je viens du comique, j'ai fait l'émission de Laurent Ruquier, On ne demande qu'à en rire, pendant des années, donc c'était surtout ce passage-là qui était surprenant. Et d'ailleurs, je remercie encore une fois Éric Rochant qui a permis ce pont, parce que souvent, quand on est dans la comédie ou dans le drame, on a du mal à sortir de cette case. Là, je suis dans un film au Festival de Cannes en sélection qui s'appelle La Pampa, et je trouve ça génial de pouvoir continuer. Moi, je veux continuer à faire du drame, je veux continuer à faire de la comédie, et je veux continuer à essayer de casser un peu cette barrière qu'on essaie de mettre à chaque fois en mode, non, lui, il fait des comédies, il fait du drame, et on sort pas de nos cases, quoi.
Bah, en fait, vous êtes comédien.
Oui, mais en France, comédien, ça veut, c'est compliqué, hein. On aime bien mettre les gens dans les cases, on aime bien dire, non, lui, il fait ça, et il faut pas lui faire autre chose,
hein. J'ai rêvé, vous allez porter la flamme olympique prochainement à Montpellier.
Je vais porter la flamme olympique tout à fait à Montpellier, je suis relais de la flamme. C'est même une petite pression, hein, en vrai. Hein.
Ah oui?
Bah ouais, parce que t'as quand même 200 mètres à courir avec une flamme, enfin, tu vois, je dis... Non, ouais, je... Puis en plus, c'est tout en blanc, là, ce qui n'est pas la meilleure couleur.
Ah, mais c'est charmant, parce que là, je vois que vous avez le trac, en fait, à l'idée de faire ça.
Non, c'est surtout qu'il est 9h du matin et que j'ai très mal dormi. Mais non, mais c'est, ça met quand même... Enfin, je trouve ça un honneur, voilà, parce qu'on critique beaucoup les jeux, et quand on est parisien, encore plus, parce que c'est compliqué. Mais je trouve qu'en vrai, des fois, on oublie un peu que c'est quand même fou de se dire qu'on va avoir les Jeux Olympiques à Paris... Dans notre ville, enfin moi je trouve ça.
Vous avez raison, en tout cas c'est un honneur. Merci beaucoup Artus, votre film Un Petit Truc en Plus. Et la très bonne surprise de ce printemps pluvieux, à voir au plus vite dans nos salles de cinéma avec vos camarades Alice Belaïdi, Clovis Cardillac. C'est déjà un succès, je recommande en particulier une scène de douche collective qui, à chaque fois que je la vois en pub, si je puis dire, me fait sourire.
Ben merci beaucoup.
Vous êtes fait doubler dans cette scène de douche, vous?
Non, pas du tout. C'est des vrais culs et des vrais.
Moi j'étais curieux de ça aussi.
Écoutez.
Bonne journée, à bientôt sur RTL.
Merci à vous, merci beaucoup.
Infiniment. 8h28, dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité. Alors, le programme météo de cette semaine, Marina, mercredi, ça change.
Oui, on va vers le mieux progressivement et on aura un super week-end. À faire du bien.
RTL Matin. Ça fait clic, 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 pam, pam, pam.
Yves Calvi.
Je traque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisant.
Amandine Bégo.
T'es tellement chouchou.
7h, 9h.
Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas.
Grand frais.
Bonjour, c'est le traiteur. Alors, pour votre cérémonie de demain, je peux pas. J'ai grand frais. Ils ont de savoureuses myrtilles bien parfumées, comme je les aime. Bon, en commençant à préparer les toasts maintenant, ça devrait le faire pour vos 300 invités. C'est bien ça, hein?
Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à jeudi, les myrtilles sont à 80 centimes les 100 grammes. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais!
Le meilleur marché.
Soit 7,99€ le kilo. Origine selon arrivage précisé sur le lieu de vente. Magasin ouvert ce mercredi 8 et jeudi 9 mai de 9h à 13h. Liste et horaires sur grandfrais.com.
Excusez-moi, monsieur.
Oui, ma grande.
C'est au sujet de vos t-shirts, il n'y a pas un moins cher?
Ah non, désolée, ma grande.
Arrêtez de m'appeler ma grande. S'il y a un truc que j'aimerais voir grande, c'est vos promos.
Et oh, on n'est pas chez Sport 2000 ici.
Conseil d'expert, venez chez Sport 2000. Jusqu'au 26 mai, pour 3 t-shirts achetés, le t-shirt de marque est à 9,99€.
Sport 2000.
Ça match.
Conditions et liste des magasins participants sur sport2000.fr.
La vie claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment chez La vie claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dans nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La vie claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur laviclaire.com. Pour votre santé, bougez plus.
RTL Matin.
8h30 tout pile sur RTL, l'essentiel de l'actualité, Sébastien Roussel.
Et c'était tout à l'heure sur RTL, la première interview de l'avocat de la mère de Naël, cet adolescent de 17 ans tué par un tir policier en juin dernier à Nanterre après un refus d'obtempérer. Maître Boudy a assisté à la reconstitution qui a eu lieu hier et pour lui, il est très clair que le policier auteur du coup de feu n'était pas, comme il l'affirme, en situation de légitime défense.
On a des images et la reconstitution telle qu'elle a été produite hier, c'est sur la base de ces images-là qu'elle a été imaginée. Vous savez, le policier dans sa première version, il a dit que le véhicule était en train de lui foncer dessus. Cette version a été contredite par les images et l'évolution des explications et des justifications l'a été uniquement en raison de ces images-là. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Que si la scène de ce drame n'avait pas été filmée, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu d'affaire Naël. Donc, on est en mesure aujourd'hui de douter des explications. Comme les témoins l'expliquent depuis le départ, quand les policiers sont arrivés à la hauteur du véhicule, il n'y a pas eu de discussion possible.
L'avocat de la mère de Naël, qui était ce matin votre invité, Amandine, je rappelle que le policier qui est mis en examen pour homicide volontaire affirme que lui et son collègue étaient en danger de mort, car coincés entre la voiture et un mur au moment où le véhicule a redémarré. C'est une info RTL de Thomas Proutot. Un jeune homme de 17 ans a été abattu hier soir à Marseille dans un nouveau règlement de compte. Ça s'est passé dans le quartier de la Rose, dans le 13e arrondissement. Et puis à Sevran, près de Paris, deux hommes connus pour trafic de stupéfiants ont été abattus hier en fin de journée. Cela fait 3 morts en moins de 48 heures dans cette ville de Seine-Saint-Denis après un premier règlement de compte vendredi soir.
8h32 après les universités, la mobilisation pro-Gaza va-t-elle gagner les lycées?
L'Union syndicale lycéenne appelle au blocage à partir d'aujourd'hui pour obtenir un cessez-le-feu et la reconnaissance par la France de l'État palestinien. En quoi la situation à Gaza concerne-t-elle les lycéens? C'est la question qu'a posée dans RTL Petit Matin Jérôme Florin au président du syndicat Gwen Thomas Alves.
On a notre mot à dire, c'est-à-dire que on sait exactement ce qui se passe, on est une génération politisée, notamment via les réseaux sociaux, avec des sources fiables évidemment. Il y a 35 000 Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne, et donc nous on considère que chaque être humain doit se sentir concerné, et c'est ce qu'on a en fait depuis le début, c'est-à-dire que depuis 7 mois on a des mobilisations, des rassemblements, des manifestations, mais on voit bien que rien ne change et qu'aujourd'hui on n'a toujours pas un cessez-le-feu, et donc pour nous il faut pouvoir transformer ce mouvement, comme ce qui s'est passé aux États-Unis et aujourd'hui, la semaine dernière à Sciences Po Paris, avec des blocus dans tous les lycées de France.
Et pour tenter d'arracher une trêve à Gaza, une réunion d'urgence doit avoir lieu aujourd'hui au Qatar. Pour l'heure, les négociations sont dans l'impasse. Le Hamas réclame la fin de la guerre, tandis que Benjamin Netanyahou ne veut qu'un cessez-le-feu temporaire. Il a réaffirmé hier qu'il comptait bien lancer une offensive sur Rafah. L'armée israélienne appelle d'ailleurs ce matin les habitants de l'est de la ville à se déplacer vers les zones humanitaires dans le cadre, je la cite, d'une opération d'ampleur limitée. Guerre en Ukraine et concurrence déloyale seront au cœur des discussions ce matin entre Emmanuel Macron et Xi Jinping. Le président chinois est en France pour une visite d'État de 2 jours. Cérémonie en grande pompe prévue cet après-midi aux Invalides, puis banquet ce soir à l'Élysée.
Soprano, Tony Parker, Basile Boli ou encore Jean-Pierre Papin, on le sait depuis hier soir, tous porteront la flamme olympique jeudi à Marseille.
Elle débarquera mercredi sur le Vieux-Port, où l'on attend 150 000 personnes. Pour l'heure, elle vogue encore sur la Méditerranée à bord du Bel M, sous le regard attentif de Thomas, l'un des matelots du trois-mâts.
Elle se balade de temps en temps sur le pont. On a des gardiens qui la surveillent, mais nous aussi, on a un œil sur elle quand même. On aime bien la regarder. C'est des souvenirs pour la vie, ça c'est sûr, et même pour l'éternité, je dirais.
À propos recueilli par Jean-Michel Rascol et l'arrivée de la flamme, vous pourrez la vivre sur RTL. RTL Bonsoir en édition spéciale à partir de 18h mercredi donc.
Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Nous voici venus.
Attention.
À notre météo à 7 jours.
Une pression.
Elle est un peu délicate, oui, on vous comprend, parce qu'on se demande si on va sortir de cette espèce de calvaire qui dure depuis un mois.
Pour l'instant, ça se profile plutôt bien. L'indice de confiance est assez fort, entre 3 et 4 sur 5, donc c'est pas trop mal. Donc aujourd'hui, on oublie nuages, averses, des orages, de la neige en montagne, des températures entre 12 et 25 degrés, 25 à Ajaccio, qui va échapper la Corse au mauvais temps aujourd'hui. On aura 19 à Paris, c'est plutôt de saison, 17 à Toulouse, là c'est en dessous des moyennes de saison, 17 à Lille, 14 à Cherbourg. Alors pour demain, déjà il y aura un léger mieux, on y va progressivement, sur le tiers nord du pays, donc vraiment du nord de la Loire, Île-de-France jusqu'à la Belgique. On aura de moins en moins d'averses, de plus en plus d'éclaircies, ce sera un peu mieux, ça c'est pour le tiers nord, parce que sur les deux tiers sud, demain ce sera encore de la pluie, des orages, de la neige en montagne, à part en Méditerranée, les températures ne bougeront pas, ce sera comme cet après-midi. Mercredi, ça y est, ça commence avec le retour d'un temps sec et de plus en plus ensoleillé. De la Bretagne au Hauts-de-France, de la Normandie à la région parisienne, du Poitou-Charentes, Pays de la Loire, au centre, en allant vers les Ardennes. Donc vraiment, une moitié nord-ouest du pays, ce ne sera pas trop mal. Ça restera nuageux avec des petites averses pour la façade est et puis vers les Pyrénées, juste la Méditerranée qui gardera du soleil. Et puis à partir de jeudi, et ça se confirme, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, conditions anticycloniques, donc pas d'averses, plutôt ensoleillé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petits nuages, mais surtout les températures vont remonter. C'est ça qui va faire du bien. On va gagner quelques degrés jeudi, puis vendredi. Et ce week-end, la moyenne, ce sera 25 sur la moitié nord et 26 sur la moitié sud. C'est une moyenne. Donc évidemment, on dépassera cette température.
Vous allez voir qu'on va se plaindre et dire qu'on a trop chaud.
Non, je ne pense pas à ça.
On va surtout observer tout ça avec curiosité et une certaine impatience, je crois. Merci Marina Giraudeau.
Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour tout le monde.
Quel est votre choix télé du jour ?
Bon, la nuit des Molières, 21h10.
Soyons
francs, justement. C'est Caroline Mignot, la madame loyale de cette 35e édition, qui m'a convaincue d'évoquer la soirée de la grande famille du théâtre. Tu parles. Moi, je préférais La Recrue sur TF1 ou Marié au premier regard, parce que justement, c'est avec les Molières que je suis rarement à la noce. Avant, j'ai toujours peur que ça soit ennuyeux. Après, je constate que ça l'a été. Avec les discours longs et lents de ceux qui remettent, de ceux à qui on remet, et qu'on remet pas toujours d'ailleurs. Sauf que Caroline Mignot, surdouée, entre la robe d'avocate contre une robe à paillettes, humoriste, actrice, la animatrice, me l'a juré, ce sera un scoop très vivant et très drôle. Surtout, elle jure qu'elle a trouvé un truc, une botte secrète pour les faire taire s'ils sont trop longs. Et là, comme personne n'y est jamais arrivé, eh ben ça m'intéresse. Donc, rien que pour elle, rien que pour ça, je regarderai ce soir, mais attention, si c'est décevant, on lui fera une scène et pas de théâtre.
Bon, et c'est sur France 3, c'est ça ?
France 2, France 2.
France 2, oh là là, France 2 ce soir. Ah, pardon.
France 3, c'est un polar.
Vous me refaites le oulala ?
Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Dans un instant, oulala.
Oulala.
Notre deuxième dose de Philippe Cavrivia. Oui. Et puis alors, notre docteur Jimmy Mohamed va nous parler d'un moyen de faire la sieste parfaite.
Oui, oulala.
Oulala. Aussi. Tout de suite.
7h-9h. RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
T'es qui, toi ?
Je suis Blue. Blue et compagnie.
Et si je te disais que les amis imaginaires sont réels ?
Le film événement pour toute la famille.
J'ai vraiment adoré.
On rigole.
Très émouvant, très touchant.
Il y a de l'amour.
Retour en enfance.
Papa, maman, les enfants, tout le monde.
Avec Ryan Reynolds et les voix de José Garcia et Mylène Farmer.
Ça fait du bien.
Blue et compagnie, mercredi au cinéma.
Ah ben, faut aller le voir, hein.
Avec RTL. RTL.
Carrefour.
Quand vous me dites « Eh bien, appelez-moi maître », je vous réponds que le lot de deux avocats est au prix le plus bas de 1,98€, soit 99 centimes la pièce seulement. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors lot 1,19€ la pièce, origine Pérou, Tanzanie ou Kenya, catégorie 1, calibre 18 et ou 20, détails sur carrefour.fr.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Grand frais.
Bonjour, c'est le traiteur. Alors, pour votre cérémonie de demain, je peux pas. J'ai grand frais. Ils ont de savoureuses myrtilles bien parfumées, comme je les aime. Bon, en commençant à préparer les toasts maintenant, ça devrait le faire pour vos 300 invités. C'est bien ça, hein ?
Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à jeudi, les myrtilles sont à 80 centimes les 100 grammes. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais !
Ouais !
Le meilleur marché.
Soit 7,99€ le kilo. Origine selon arrivage précisé sur le lieu de vente. Magasin ouvert ce mercredi 8 et jeudi 9 mai de 9h à 13h. Liste et horaires sur grandfrais.com.
RTL. Le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
Notre deuxième dose pour bien commencer la semaine. Philippe, nous recevions ce matin Maître Nabil Boudi. C'est l'avocat de la mère de Naël.
Oui, pardonnez-moi, je fais une petite parenthèse. Juste après, on a reçu Artus.
Oui.
Et Yves s'est interrogé sur le succès du film. Un petit truc en plus, pardon, mais mercredi, j'ai fait un clin d'œil à Artus, à l'antenne. Donc après, derrière, ça décolle.
Ah oui.
Faut pas non plus s'en étonner. Voilà.
Vous êtes impliqué.
Voilà, voilà, un petit peu comme
ça. Le succès.
Mais bon, voilà, moi, je reste avec vous. Je sais que le cinéma m'appelle, calme, tout ça.
Merci.
Je reste avec vous.
Merci pour cette simplicité.
Voilà. Alors, oui, Nabil, il était super, l'avocat. Alors, les jeunes, c'est vrai, les jeunes en 2024 font des conneries de plus en plus jeunes et de plus en plus grosses. Alors que nous, on était un peu, voilà, décalés. Non, on faisait les azous, mais bon, voilà, parcours normal, on a notre premier vélo à 16 ans, notre premier scooter à 28, premier rapport sexuel à 35, enfin le classique.
Oui.
Alors, le problème chez les jeunes, c'est les refus d'obtempérer.
Ah.
Regardez Guillaume Meurice.
Oui.
Bon, deuxième balle sur Netanyahou, deuxième balle dans le genou. Hein, fais-moi le malin. J'espère qu'on va pas le récupérer sur RTL. Il est très talentueux, c'est pas la question.
Non.
Et on a déjà un gauchiste avec Vizorek. Il suffit.
Deux, ça fera beau.
Voilà.
Le président chinois, lui, est arrivé hier en France.
D'où l'absence de Louis Baudin.
Oui. Voilà, tout s'explique.
A demandé à rencontrer Louis Baudin et à le remercier pour son soutien envers la communauté des masseuses asiatiques. Pour l'occasion, Macron a sorti Raffarin du placard. Petit coup de Swiffer pour enlever la poussière. Il a remonté le cadran, enfilé les piles neuves hop, par en dessous et...
The yes needs a no to win.
Voilà.
Again the no.
Il marche, mais même en anglais, Jean-Pierre, c'est du chinois, comme quoi il était prédestiné. Alors, le président chinois était très bien reçu. On a mis à la place du petit paillasson, on a mis la déclaration des droits de l'homme. Oui, comme ça, il se sent comme à la maison. Beaucoup de minorités ne sont pas contentes. Les Ouïghours ne sont pas contents. Les Tibétains,
oui.
Les Taïwanais,
non plus.
Les Hongkongais.
Oula.
Les Hongkongais gays sont encore moins contents parce qu'ils n'aiment pas trop les homosexuels là-bas. Alors, pour les Ouïghours, c'est vrai que cette visite est inadmissible, car le président n'aime pas les Ouïghours, même pas les Ouïghours nature. Merde. Ça, c'est une vieille fiche de Vizorek.
Ah oui.
Il a fait un jeu de mots sur les Ouïghours nature. Okay. Excusez-moi, je lisais un papier qui traînait.
Bon, à Paris, un cycliste qui avait grillé un feu rouge a percuté la voiture de Bruno Le Maire. C'était vendredi.
Paris à vélo, dépasse les autos.
Ah, Claude François.
Oui.
Foutu sextoy. On t'avait dit de pas jouer avec dans la baignoire. Oui, Bruno quitte son bureau le vendredi à 19h. Bon, il a pris son après-midi, il a le droit. Et le cycliste s'est pris l'arrière de Bruno. Enfin, le renflement brun de Bruno. Alors, test d'alcoolémie, bien sûr, négatif. Léa Salamé a tout de suite déclaré « Oh là là, mais qu'il est chiant ce Bruno !» Même pas un peu de vodka, même pas un rail de coach. Je suis pas prêt de le réinviter sur France Inter. Un dernier mot, ce soir, c'est la cérémonie des Molières. Sur France 2, mourir sur scène. Alors, ce n'est pas ce qu'on souhaite à Caroline Vigneault, la maîtresse de cérémonie. On lui souhaite de les tuer de rire. Elle a énormément de talent, ça va être facile. La cérémonie qui récompense donc les acteurs et actrices qui n'ont jamais percé au cinéma et qui ont donc rebondi au théâtre, faute de mieux. Une cérémonie qui peine à faire parler. Vivement, un bon vieux MeToo théâtre. Que ça mette un petit peu de piment dans ce monde-là. Voilà, il n'y a pas de raison. Il doit y en avoir aussi. Moi, j'accorde mon Molière à Alex Vizorek que j'ai vu sur scène. Ça me fait mal au cul, mais il est formidable.
Merci de votre soutien aux
intermittents. Et les intermittents, c'est quoi?